Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier hors-série de Nostalgique. Alors bon, je sais pas pour vous, mais moi, à l'heure où j'enregistre, il fait super beau, et à l'heure où ça sera diffusé, j'espère bien que j'aurai retrouvé mes chères plages normandes. Après, j'espère pour vous que vous serez aussi en vacances et que vous pourrez m'écouter aussi sur des plages, et de préférence, normandes, c'est les plus belles. Allez, une fois que ça c'est dit, attaquons le premier hors-série. Alors du coup, je vais plutôt me consacrer à une console très chère à mon cœur de vieux joueur Nintendophile. Alors oui, j'ai bien eu la NES et la Super NES, mais elles n'ont pas eu sur moi le même impact que la Game Boy ou la GameCube. Oui, je dis la GameCube et puis c'est comme ça. Bref, ces consoles n'ont pas non plus la plus haute place de mon top de toute façon. Cette console si particulière pour moi, bah, comme l'indique le titre du hors-série, c'est bien la Nintendo 64. Je saurais pas trop l'expliquer, mais c'est toujours vers cette console que se tournent et se cristallisent mes souvenirs. Beaucoup de très bons moments avec mon pote, les premiers jeux terminés, et même littéralement poncés, les premiers jeux dits matures, ou proposant des expériences réellement originales, enfin bref, un parfait melting pot d'excellents arguments et de très bons moments passés. Et puis maintenant, jeune papa, eh ben, j'aime bien la rebrancher et montrer à mon fils les cartouches de jeu, parce que c'est un support disparu, hein, évidemment, et lui faire s'essayer à certains chefs-d'œuvre. Alors notamment, il s'était déjà attaqué à Banjo-Kazooie, j'en avais déjà parlé, et il sera à Mario sans doute et à d'autres jeux du même type. En tout cas, pour les enfants, la Nintendo 64 est vraiment très très bien. La prise en main est peut-être difficile, mais alors, par contre, la ludothèque, elle est parfaite pour ça. Cette console est à l'image de Nintendo, multigénérationnelle et créatrice de liens. C'est vrai que mes parents, en revanche, ne s'y sont jamais essayés, alors qu'il leur arrive de jouer à la Wii. Probablement que la Wii est plus créatrice de liens et vraiment intergénérationnelle, bah, grâce au motion gaming et à la simplicité des jeux qui y sont proposés, en grande partie. Ben, voilà une console qui a réellement amené toute la famille à partager mes loisirs vidéoludiques. Mais pour l'expérience de jeu seul, eh bien c'est plutôt famélique à mon goût sur la Wii, alors que la Nintendo 64 est très bien fournie malgré une ludothèque pâle de seulement 242 jeux. Bon, si on analysait la bête, un petit peu, avant que la nostalgie ne me gagne vraiment. Elle est sortie en 1996 et vendue à 32 millions d'unités durant sa carrière. Cette dernière console cartouche de Nintendo a abrité de nombreux chefs-d'œuvre et quelques accessoires incongrus qui font la joie des collectionneurs. Et puis, elle a eu aussi son lot de déceptions. Alors, au niveau des déceptions, ouais, je préfère quand même qu'on évacue ça d'entrée, on notera la perte de la licence Final Fantasy, les putains de boîtes en carton ultra fragiles, les sticks analogiques fragiles, eux aussi, et se grippant facilement, surtout avec des jeux comme les Mario Party qui sont des véritables joystick killers, et évidemment le 64DD. Et parlons-en de ce 64DD qui nous avait vendu du rêve à l'époque. Sorte de second lecteur de disque réinscriptible qui pouvait apporter par exemple de nouveaux circuits pour F-Zero, et même un éditeur de course, du contenu supplémentaire pour Zelda Ocarina of Time, et même débloquer des parties des mondes explorés dans Banjo-Kazooie. Vous souvenez, tout ça. Après ils sont passés au système Stop and Swap, et après ils ont carrément laissé tomber, la grosse frustration de sa mère. Bref. Certains jeux particulièrement ambitieux, comme Hybrid Even, ne se remettront jamais vraiment de cette annulation déguisée. Car le 64DD est sorti au Japon en décembre 1999, et le service a été stoppé en mars 2001. Il servait à faire fonctionner le service Rondnet, donc, qui permettait de précommander des jeux, de jouer à quelques démos et de surfer sur Internet grâce à un clavier dédié, vendu évidemment séparément. Bref, on a affaire ici à une putain de déception, à la hauteur des fantasmes qu'on nous avait vendus au départ. Au niveau des jeux, je trouve qu'il n'y a peu de réelles déceptions, je veux dire, il y a bien des bouses, comme les très tristement connus Superman 64 ou Hercule Légendaire Journée. Mais des bouses, il y en a toujours, une déception, des vraies déceptions vendues comme des chefs-d'œuvre, mais bien pourries au final, bah, j'en ai pas vu beaucoup sur la 64. Ce qu'on nous a vendu comme des chefs-d'œuvre, la plupart du temps, c'en était. Chaque jeu de combat était une petite déception, certes, mais même si l'attente elle n'était pas très élevée, Hybrid Even aussi a été une déception. C'était un jeu très étrange et très ambitieux, croisement de TPS, de jeux de rôle, de versus fighting, et un petit peu de jeux d'infiltration, quoi, qui était vendu comme le Metal Gear Solid de la 64. Alors c'est dommage, car son hybridation le rendait vraiment intéressant, et je trouve qu'il mérite tout de même un peu d'attention. Un autre soft problématique, ou plutôt deux d'ailleurs, c'est les Castlevania. Alors, ils ne sont pas très beaux, ils ont très mal vieilli, la caméra elle est carrément aux fraises pour les nombreuses phases de plateforme, c'est à mourir d'arrachage de cheveux. Vous vous rendez compte le truc. Mais le pire, l'outrage suprême, la palme de l'idée la plus con du monde, c'est ce putain de mode facile. Vous l'avez jamais essayé? Alors je vous raconte vite fait. Le mode facile, si vous jouez en mode facile, vous aurez le même jeu qu'en mode normal, sauf qu'à 75% du jeu, un boss en particulier, et ben le jeu s'arrête et vous dit bon, vous avez fini la partie facile, maintenant recommencez en normal. Mais de zéro. Mais quel est le crétin qui a eu cette idée? Et quel est le grand malade qui l'a laissé faire? Parce que ok, les jeux étaient peut-être déjà pas... Enfin, la 3D était vraiment pas terrible sur ces jeux-là. Mais en plus, cette idée-là, mais bordel! Vous vous rendez compte, le joueur qui se fait 75% du jeu, vous lui dites allez, recommence à zéro, avec déjà ce problème de plateforme. Oui, alors dès le début du jeu, il y a des moments où il faut sauter sur des plateformes pour traverser des rivières. Évidemment, la caméra part aux fraises à chaque saut, c'est du pif complet, de l'aveugle, sans pareil. Mais après, je trouve que l'aventure est quand même plaisante. Mais le coup du 75% d'y recommence à zéro, bah non, si c'est la même chose, fallait pas le faire le mode facile du coup. À part ça, je vois rien de plus de négatif autour de cette magnifique console, et je vais pouvoir me laisser aller à faire son éloge, clairement. Donc le design racé et élégant, extrêmement robuste et puissante pour l'époque, ok. La Nintendo 64 saura encore séduire petit et grand. De plus, l'expansion pack lui octroiera un petit surplus qui affinera les graphismes et rendra le tout plus fluide. Innovante, sa manette l'est aussi, et à plus d'un titre. Tout d'abord, le port arrière permettant d'insérer la memory card, le transfer pack, car Nintendo a continué à mettre en avant son énorme ludothèque Game Boy, et surtout le kit vibration. Autre grosse innovation, bien que gadget à 80% du temps. Hein. Mais bon, la manette vibrante, ça n'existait pas avant. Et ça, ce n'est que la partie périphérique. Le plus visible en premier, c'est ses trois poignées, comme si la manette avait été conçue pour un poulpe. Et pourtant, une fois en main, bah, ça marche plutôt bien. La main droite fixe sur les boutons, et la gauche sur la croix, ou, autre innovation, sur le joystick et la gâchette Z. Et autant dire que c'est cette configuration qui sera la plus utilisée, surtout pour les excellents FPS qui ont fleuri sur la N64. Bref, même si ses poignées sont démesurées, j'ai toujours trouvé que cette manette très ergonomique. Et je ne dois pas être le seul, puisque l'on retrouve toujours ses dispositions dans les manettes actuelles, mais un peu plus ramassées et sans la troisième patte au milieu. Pour les collectionneurs les plus acharnés, il existe aussi un biosensor qui se branche dans la manette et à l'oreille du joueur pour vérifier son rythme cardiaque, durant une partie de Tetris 64. Donc cet accessoire assez cher ne marche que pour Tetris 64. Amusez-vous bien. Bon, alors on a vu la console, les manettes et quelques périphériques, il conviendrait de s'intéresser au jeu. Maintenant, car la boîte noire de Nintendo a vu éclore de nombreuses séries novatrices et a aussi conforté des licences fortes. Au rayon des séries qui ont vu le passage à la 3D leur sourire, on notera bien sûr Super Mario 64, disponible dans le line-up de départ et qui définira durablement le must de la plateforme 3D. Zelda Ocarina of Time, le meilleur Zelda à mon goût, qui est toujours reconnu comme un des meilleurs jeux, toute console confondue, et sa suite déguisée Majora's Mask, tout aussi parfaite. On notera aussi F-Zero X, probablement le meilleur jeu de course de la bécane, et surtout Yoshi's Story, un super platformer 2D au design enfantin très mignon que tout amateur se doit de posséder et de faire découvrir à ses enfants. Et enfin, Mario Kart 64, que vous m'avez plébiscité. Alors, je ne peux pas dire qu'il s'agit du meilleur Mario Kart, tant cette série accumule les très bons épisodes, mais Big N a aussi débuté deux de ses licences phares sur cette console, la série des Mario Party et les Smash Bros. Deux paris plutôt risqués tant leur concept paraît étrange. D'ailleurs, à l'époque, je m'étais jeté sur Mario Party, mais j'avais loupé Smash Bros. Bon, vous allez me dire que je suis bien gentil, mais il n'y a pas que Nintendo pour fournir du contenu de qualité à son mastodonte. En effet, nous trouvons aussi Quake et sa suite, un Doom exclusif, le Doom 64, Resident Evil 2 et un nouveau Donkey Kong par exemple. D'ailleurs, puisque l'on en parle, ce dernier a été développé par Rare, qui a connu son apogée sur cette console avec une pelletée d'excellents soft comme Banjo-Kazooie, GoldenEye, Perfect Dark ou encore Conker's Bad Fur Day. C'est bien simple, si vous aimez la 64, vous avez dû débuter votre collection avec leur production tant elle aura marqué cette époque. Maintenant qu'on a un peu posé le décor, je vais vous proposer un top 10 flop 5 et en bonus, une petite sélection de jeux concept. Bien entendu, ceci reste très personnel et subjectif. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part encore une fois en commentaire. Moi, je suis très preneur et j'aime beaucoup échanger avec vous. Allez, c'est parti pour le top 10. Donc en 10, Hybrid Even, j'en ai parlé tout à l'heure. Je suppose que ça va en surprendre certains, tant le jeu de Konami a mauvaise presse. Néanmoins, le mélange jeu d'action-infiltration RPG est surprenant et audacieux. Le mode 2 joueurs façon versus fighting au tour par tour est déroutant, mais je pense que quiconque aime le jeu vidéo devrait jeter un œil dessus, ne serait-ce que pour l'originalité de son gameplay. Le 9ème, Blast Corp. premier jeu Rare de mon top. Sorti dans le line-up de départ de la Nintendo 64, il est passé relativement inaperçu malgré ses qualités et son concept addictif. En effet, dans ce jeu relativement long et difficile, vous incarnez un membre de Blast Corp et vous devez raser tout ce qui se trouve sur le chemin d'un camion fou afin qu'il arrive à destination sans encombre. WCW vs NWO Revenge. Seul jeu de combat de mon top, ce jeu de catch de THQ, suite de WCW World Tour, est réellement très complet. On y retrouve un roster absolument gigantesque, énormément de possibilités de combat, des modes championnat, exhibition et surtout un multijoueur de folie. D'abord le tournoi en équipe qui est un vrai plaisir à poncer avec un pote, et surtout un mode Royal Rumble à 40 participants jouables jusqu'à 4 simultanément, véritablement épuisant, un vrai marathon vidéoludique. Tony Hawk Skateboarding, seule simulation sportive qui m'ait réellement plu. Je ne pense pas qu'il soit vraiment utile de vous présenter le premier volet de la série d'Activision. Je reste sur celui-ci surtout parce que c'est avec lui que j'ai découvert cette série en devenir. Tout ce qui en fait le sel est déjà là. Une folie du combo et du scoring, les multiples objectifs sur des runs de 2 minutes et les nombreux gaps cachés. Ah, et un multijoueur de folie. Silicon Valley Space Station. Il s'agit d'un petit jeu de plateforme original. On y incarne une puce électronique dans un zoo de l'espace où toutes les espèces sont des animatroniques. Comme cette puce ne peut survivre hors d'un autre, nous prenons le contrôle de divers animaux afin de compléter les objectifs de chaque niveau. C'est un jeu très agréable qui mérite réellement d'être découvert. Perfect Dark. Qui ne connaît pas la suite spirituelle du mythique GoldenEye? Un nouveau excellent FPS, des armes dotées de tirs secondaires, des graphismes au top de la console. Alors pourquoi moins bien que GoldenEye? Eh ben, le scénario il est un petit peu confus et il ratisse un peu large. Alors même si j'adore la SF et qu'à sa sortie X-Files cartonnait, je trouve que ça bouffe un peu trop à tous les râteliers. Mais ce n'est qu'un détail par rapport à toutes ses qualités. Et du coup, 4, GoldenEye. Et voilà le FPS mythique de Rare, adaptation tardive d'un bon James Bond rendu mémorable par son excellence. Un mode solo extrêmement prenant et un multijoueur jouissif. Ah, ce mode licence to kill ou le Golden Gun, tout cela est entré dans la légende. Et là, on est dans la sainte trinité de la N64 pour moi, Shadowman. Alors là, on entre dans un registre mature. Visite des enfers, intrigue à base de serial killer et violence assumée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce jeu est inspiré d'un comics et c'est un TPS aventure dans la lignée de Tomb Raider. On y incarne Mike Leroy, un homme capable de voyager entre le monde des vivants et celui des morts. Et il va lutter pour empêcher 5 serial killers menés par Jack l'Éventreur de s'associer à Légion pour dominer le monde. Ambiance, ambiance. 2, Banjo-Kazooie. Eh ouais. Allez, c'est pas que je veux faire la feignasse, mais j'ai déjà consacré une chronique complète à ce chef-d'œuvre. Et surprise générale, en premier, Zelda Ocarina of Time. Alors là, c'est THE chef-d'œuvre. Le premier Zelda en 3D est selon moi le meilleur Zelda tout court. J'ai été transporté en Hyrule du début de mon périple à la fin. Il faudrait vraiment une chronique exceptionnelle pour vous décrire ce que j'ai pu ressentir à sa sortie. Et encore, je ne suis pas sûr d'y arriver. Ainsi que l'émerveillement constant que représente cette aventure. Si vous n'y avez jamais joué, c'est le moment. Bon, voilà pour mon top 10. Tout à fait personnel. A ce top, j'ajouterai trois mentions particulières. Duke Nukem 0 une très bonne aventure de Duke exclusive à la 64. Worms Armageddon et son multijoueur de folie qui a cramé mes après-midi. Et enfin, Maze the Dark Age. Le meilleur jeu de combat de la console, mais sans grande concurrence, il est vrai. Maintenant, passons aux choses qui fâchent. Le flop 5. Je voudrais préciser, avant, que je ne parlerai pas de Superman ni Power Rangers, le joueur du grenier l'a déjà très bien fait, et moi c'est des jeux que j'ai pas pratiqués. Et puis autant être un petit peu original que diable, des bouses il y en a eu quand même un certain nombre, je dois en retenir que ça, autant pas prendre les mêmes que tout le monde. En cinquième, Earthworm Jim 3D. Parfait exemple de mauvaise adaptation 3D d'un classique 2D. C'est moche, c'est vide, la caméra aussi entre hasardeuse et carrément catastrophique, et surtout la folie ignorante au premier soft est totalement absente, on est plus proche de Bubsy que de Mario. It is the not too distant future. Here, the mighty country known as America has fallen like all great empires throughout history. Its 50 states broken into private territories. After what was called the techno-industrial civil wars. With Wall Street in shambles, the government bankrupt, and technological corporate giants running unorthodox takeovers, Neo-America was born. Quatrième, Biofreaks. Bon, la 64 compte de nombreux jeux de versus fighting, et je l'ai déjà dit, ils sont pas très bons. Au maximum, ils sont passables. Alors pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Eh ben d'abord parce que je l'ai, et que du coup je l'ai quand même bien pratiqué, plus que Gasp par exemple, qui est quand même beaucoup plus moche soit dit en passant, et qu'il est symptomatique des versus fighting sur 64. Un roster qui se veut original mais pas très fourni, des modèles 3D bâclés, un gameplay médiocre. Bon, à la décharge de ce genre de jeu, la manette de la 64 ne s'y prenne pas du tout, j'en conviens. Une 3D approximative et une caméra capricieuse. Que du bonheur, et à deux, eh ben c'est pour mieux. 3, Dei Katana. Le chef-d'œuvre de John Romero. On en parle vraiment? Ok. Catastrophe industrielle sur PC, portage tout aussi merdique sur 64. C'est bien simple, il a beau être sorti vers la fin de la vie de la console, il est plus moche que GoldenEye sorti au début. Mécanique de jeu désuète, IA à la masse totale, aucune nervosité. Le créateur de Doom a eu les chevilles trop grosses sur ce coup-là. Air Border 64. Mais pourquoi s'infliger ça quand on a 3 Tony Hawk à disposition? À part si on est ultra fan de la séquence en overboard dans Retour vers le futur 2, non, je ne vois pas. Des personnages aussi moches que caricaturaux, aux stats inutiles, des terrains de jeu géométriques sans effort de texture, plongés dans un brouillard constant, non mais c'est vraiment navrant. Alors là, le meilleur du lot, Hercule Legendary Journey. On est dans du sous... Alors attention, déjà quand on parle d'Hercule, c'est pas le Hercule de Disney. C'est le Hercule de Kevin Sorbo et Sam Raimi. Donc c'est un sous-Zelda affreusement moche, à la caméra fantasque, et je suis gentil, au gameplay limité et bourré de bugs. En venir à bout sans s'arracher les cheveux tient de l'exploit. Un vrai travail d'Hercule pour le coup. Le combat final contre Ares, c'est un vrai match d'airboxing. Alors voilà, on a fait un petit tour de la ludothèque N64, mais cette console a aussi abrité une poignée de jeux autres, de qualité inégale, mais dont l'originalité mérite d'être saluée. Alors allons-y pour la petite liste des jeux reposant sur leur concept plutôt saugrenu. Charlie Blast Territory. Eh ben, un très bon puzzle game, sans prétention, mais très sympathique. Le concept, vous incarnez Charlie, technicien de chantier avec réapparente, isolé sur une île déserte que vous devez intégralement désintégrer. C'est stupide dans le fond, mais vite complexe dans la forme et très addictif. Mario Party. Alors oui, maintenant, Mario Party, c'est quasiment une institution. Mais imaginez à sa sortie, on nous a vendu un jeu de loi avec Mario sur console. Si c'est pas du concept hautement risqué, ça... Moi, je me souviens que lorsque je l'ai acheté, quand j'ai acheté le premier, mes potes et même le vendeur n'y croyaient pas. Même le vendeur, il m'a regardé en tête. T'es sûr que tu veux ça? Chef Loves Check, un Jeopardy basé sur l'univers de South Park intégralement en anglais, gameplay peu avenant et placement de produits pour les sondes anales. Encore une mauvaise adaptation de South Park sur la N64. La N64 aura quand même compté 3 adaptations bancales de South Park, un mauvais FPS, un mauvais Mario Kart Lite et celui-ci. Glover, un jeu de plateforme 3D. Rien d'innovant jusque-là, mais si je vous disais que vous incarniez un gant qui doit se déplacer avec sa baballe, vous le voyez venir le mindfuck? Le pire, c'est que le jeu est assez agréable à pratiquer et que le côté puzzle game est vraiment très très bon. And last but not least, Iggy's Wrecking Ball. Le premier qui me chante Miley Cyrus, là je le tabasse. Déjà, des jeux de course qui exploitent la 3D dans leur concept, il n'y en a pas beaucoup. Si en plus je vous dis qu'il se joue beaucoup sur la verticalité, on est déjà sur du haut niveau d'originalité. Mais il reste encore un élément. Avec quoi courons-nous cette course? Et c'est là que ça brille complètement car il s'agit d'une course de boulets de démolition. C'est une expérience étrange mais que personnellement j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu que je trouve très très sympathique, très coloré et c'est plutôt une bonne expérience. C'est vraiment assez sympathique. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour de la 64 et pourquoi je l'aime autant, de sa manette si particulière à sa chouette ludothèque, aux cartouches indestructibles et aux boîtes en carton très fragiles. C'est la dernière des dinosaures. Elle résume aussi ce que j'aime chez Nintendo, un savoir-faire, de l'innovation et de la maîtrise. Et aussi parfois, ça déraille par excelzel, mais c'est avec panache. Alors je vous souhaite à tous de bonnes vacances, profitez-en au maximum, et on se retrouve le mois prochain pour mon deuxième hors-série. Alors contrairement à ce que j'ai annoncé dans le podcast sur Stuntman Ignition, je ne ferai pas le hors-série sur Street Fighter pour plusieurs bonnes raisons. La première, c'est que quand j'ai commencé à me documenter sur Street Fighter pour le hors-série, je me suis rendu compte qu'il existait déjà quantité de livres, de podcasts, notamment chez Bagropoint, sur Street Fighter, et que je ne voyais pas vraiment comment l'aborder sous un angle autre que tous ceux déjà abordés. Et si je l'abordais sous l'angle purement nostalgique qui me caractérise, ça tiendrait quelques minutes, ça serait une chronique normale, pas un hors-série, quoi. Donc du coup, j'ai laissé tomber Street Fighter et je vais faire une chronique plutôt, comment on pourrait dire, avec un invité. Voilà, je vais parler d'un jeu rétro gaming avec un invité qui va me vendre un jeu que je ne connaissais pas pour une fois. Voilà, du coup, ce sera le Corbeau qui nous présentera Syndicate. Et en attendant, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Vous pouvez me retrouver, moi personnellement, sur Twitter, @nostalgic1. Vous pouvez retrouver le podcast sur Twitter aussi, @nostalgicpod. Et vous pouvez aussi m'écouter sur Deezer, Spotify, Podcast Addict. Et je vais vraiment essayer de faire iTunes cet été. Et ben, je vous remercie et de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter tout cela sur les réseaux sociaux. Voilà, enfin bref, n'hésitez pas à discuter un petit peu. Moi, je suis en vacances, mais je réponds avec grand plaisir. On se retrouvera le mois prochain, et ensuite, ce sera en octobre pour une nouvelle saison de Nostalgique. Allez, salut à tous !